Les deux orphelines, sixième partie, chapitre 5. Le mouvement s'exécuta comme l'avait indiqué Rabusson. Grâce au sang-froid de tous les soldats mis au courant du danger qu'ils allaient affronter, on avait pu arriver à l'extrémité de la galerie sans que les Sioux eussent pris l'éveil. Gaspard sortit le premier pour aller rejoindre Rabusson, qui avait indiqué un pli de terrain où les Français se trouveraient à l'abri aussi bien des regards que des flèches ennemies. Le Parisien, une fois installé, fut successivement rejoint par ceux qui sortaient de la galerie. Bientôt, les deux tiers du détachement se trouvèrent réunis. Le sergent leur dit « Mes amis, couchez-vous dans les broussailles. Tenez-vous prêts à faire feu au premier signal. Mais jusqu'à ce moment-là, vous ne devrez pas broncher. Même si vous aperceviez des Indiens, même si vous voyez que les moricauds se disposent à vous attaquer. » Et le sergent, prenant un air sérieux qui contrastait fort avec l'expression de sa figure peinturlurée, ajouta « Vous ne devez pas oublier que la moindre imprudence de votre part pourrait compromettre le succès. » Les soldats s'étendirent, se dissimulant le plus possible dans les broussailles. Quand Rabusson eut indiqué au dernier homme la place qu'il devait occuper, il songea à aller à la rencontre du chevalier de Vaudrey. Roger se montrait à ce moment à l'entrée de la galerie. Le sergent lui fit signe de la main qu'il pouvait avancer. Mais, à cet instant même, des cris partaient du plateau poussés par les Indiens. Les Sioux avaient remarqué le mouvement accompli par les Français. Quelques-uns d'entre eux s'étaient glissés jusqu'au rocher qui bordait le plateau afin de se rendre compte de l'endroit où s'étaient embusqués les soldats. L'alarme fut aussitôt donnée et le chef Sioux prit immédiatement des dispositions pour attaquer les imprudents ennemis. Une immense acclamation annonça que les Indiens allaient s'élancer sur leurs adversaires. Rabusson jugea que le moment était venu de faire sauter la mine. Bondissant de rocher en rocher, il arriva à l'endroit où il savait trouver la mèche à laquelle il mettrait le feu. Le sergent prit dans la poche de sa ceinture de cuir le briquet et en fit jaillir les étincelles. Mais tout à coup, il s'arrêta au moment d'enflammer la mèche. Il venait de s'apercevoir que le chevalier de Vaudrey, retardé dans sa marche, courait risque d'être pris par les Sioux. En effet, Roger, surpris à la vue des Indiens, avait fait un mouvement instinctif de retraite. Les Sioux en avaient profité pour se porter en masse dans la direction du souterrain. Ils barraient maintenant la route au chevalier. Le péril était extrême. Si Rabusson tardait plus longtemps à faire jouer la mine, les Sioux extermineraient certainement tous les Français. Il n'y avait donc pas à hésiter si l'on voulait mettre le détachement à l'abri d'une attaque furieuse. Aussi, le sergent, grossissant sa voix, cria au chevalier « Poussez en avant, mon officier !» Et il ajouta avec force « Il n'y a pas d'autre moyen! Il faut risquer le coup !» Et tandis que Roger s'élançait sur un rocher, Rabusson battit vivement le briquet, et approchant l'amadou de la mèche soufrée, il communiqua le feu à celle-ci. À son tour alors, le sergent se mit à escalader les rochers pour rejoindre le détachement. De loin, Gaspard avait vu le danger que courait le chevalier. « Mes amis, s'écria-t-il, il faut sauver le chef !» Il avait à peine prononcé ces mots qu'un coup de carabine partait. « Ça y est !» cria Gaspard. « Joliment visé, ce coup-là » Et il indiqua du doigt Rabusson qui venait d'abattre un Sioux, dont le corps sanglant roulait dans l'abîme à quelques pas de Roger. « En avant !» commanda Gaspard, voyant qu'une bande d'Indiens s'approchait du chevalier. Les Français obéirent. Ils s'élancèrent sur les pas du Parisien. Celui-ci avait épaulé son fusil et couchait en joue un Sioux qui allait atteindre le chevalier. Mais le coup ne partit pas. Soudain, une formidable détonation se produisit, suivie de plusieurs autres plus violentes encore. Il sembla que la montagne tout entière allait s'écrouler. Une immense flamme jaillit au milieu du plateau où plusieurs ouvertures s'étaient faites subitement, comme des cratères vomissant des flammes et des fragments de rochers. On eût dit une éruption volcanique après laquelle le sol demeura tourmenté, offrant, avec les rochers déplacés, les arbres arrachés, foudroyés, brisés, brûlés, le spectacle de la dévastation produite par un tremblement de terre. À la place du plateau se trouvait à présent un précipice au fond duquel les Sioux avaient été engloutis jusqu'au dernier, pêle-mêle avec des arbres, des rochers broyés, des fragments du sol. Et de tous ces ennemis, si menaçants la minute d'auparavant, il ne restait plus que des cadavres informes, horriblement mutilés et hideusement carbonisés. Lorsque les Français furent revenus de la terreur qui s'était emparée de tous au moment de l'épouvantable catastrophe, le premier mouvement de chacun fut de chercher du regard le chevalier de Vaudray. Alors, une exclamation de surprise et d'effroi sortit de toutes les poitrines haletantes. Le chevalier se trouvait accroché des deux mains à une anfractuosité de rocher, tandis que ses pieds reposaient à peine, à leur extrémité, sur un morceau de roche qui semblait tout près de céder à la moindre secousse. L'explosion s'était produite plus prompte que ne l'avait pu supposer Rabusson, et Roger n'avait pas eu le temps d'atteindre le point où se trouvaient réunis ses compagnons quand la mine avait sauté. Par un hasard miraculeux, le chevalier était demeuré accroché ainsi que nous venons de le dire, tandis que les flancs de la montagne s'écroulaient, laissant de chaque côté de ce rocher isolé des précipices béants. Si Roger, à bout de force, lâchait prise, c'en était fait de lui. Son corps, roulant de roc en roc, arriverait broyé et pantelant au fond de l'abîme. Aussi ses compagnons terrifiés lui criaient-ils de prendre courage, d'attendre qu'on pût lui porter secours. Mais le moyen d'arriver à ce rocher surplombant des abîmes sans fond, il y avait à craindre en outre que le rocher ne disparût subitement, d'autant plus qu'il paraissait n'être que très imparfaitement en équilibre. Rabusson ne se dissimulait pas l'imminence du danger que courait le chef. « Tonnerre ! » s'écria-t-il en levant les bras au ciel. « C'est ma faute ! Je me suis trop pressé !» Et à son tour, il se mit à crier au chevalier. « Courage, mon officier ! Ne lâchez pas prise !» Puis le brave trappeur prit son élan pour sauter dans un creux de terrain d'où il espérait pouvoir gagner le tertre sur lequel se trouvait le rocher. Il ne s'occupait guère à ce moment de savoir ce qu'étaient devenus les Sioux. Le fait est qu'on n'en apercevait plus un seul. Au moment où le plateau avait sauté, les Indiens qui se trouvaient à proximité, voyant leurs compagnons et le chef projetés en l'air, furent saisis de terreur et s'enfuirent épouvantés, croyant à l'intervention du grand esprit. Rabusson avait rejeté sa carabine sur son dos, et s'aidant des mains et des genoux, il faisait des efforts surhumains pour franchir la distance qui le séparait encore du rocher. Et toujours il criait au chevalier « Courage, mon officier, j'arrive !» Les forces de Roger s'épuisaient rapidement. Ses doigts, crispés, avaient peine à soutenir le poids du corps, et les jambes subissaient par la violente tension des muscles des souffrances intolérables. Le chevalier se voyait perdu. Les exhortations au courage qui lui arrivaient ranimèrent son énergie. Il fit un suprême effort pour se maintenir dans la position où il se trouvait. Mais chaque seconde rendait la situation plus périlleuse. Il arriva un moment où les yeux du chevalier se fermèrent, où le sang se porta au cerveau avec une extrême violence. Roger n'entendait plus les voix qui s'adressaient à lui. Soudain, sa tête se renversa. Il allait infailliblement lâcher prise. Haletant, Gaspard et ses compagnons, impuissants à porter secours à leur chef, suivaient avec angoisse l'ascension du rocher que tentait désespérément Rabusson. Le trappeur exécutait des prodiges d'agilité et de force. Il avait reconnu, après bien des tentatives avortées, que le seul moyen de parvenir jusqu'à l'officier était de descendre d'abord au fond du précipice et d'escalader ensuite le terrain à pic pour arriver jusqu'au rocher. Une fois là, il aurait à se hisser sur le sommet du roc et, étendu à plat ventre, il pourrait, pensait-il, arriver à saisir les poignets du chevalier et parvenir ainsi à attirer à lui le corps du patient. Mais tout cela prenait du temps. Le chevalier pourrait-il attendre? D'une seconde à l'autre, ses mains pouvaient subir une dernière contraction. Après quoi, c'était la mort. Le corps de Roger éprouvait des oscillations de mauvais augure. Rabusson, après des efforts inouïs, gravissait le monticule. L'explosion qui avait crevassé la terre rendait l'ascension périlleuse. 20 fois le trappeur avait senti le terrain lui manquer sous les pieds, et il lui avait fallu s'accrocher aux anfractuosités pour ne pas lui aussi rouler dans l'abîme. Après chaque incident de ce genre, il devait procéder d'une façon différente. C'était sans cesse de nouveaux retards. Tout à coup, comme il venait d'atteindre la base du rocher, il entendit la voix du chevalier qui s'élevait avec des intonations gémissantes. « À moi ! À moi ! » disait Roger. « Courage, mon officier ! Me voici ! Me voici !» répondait Rabusson. Et saisissant à deux mains le rocher, l'agile trappeur se mit à grimper. Mais sous son étreinte, la pierre vacilla. Cette fois, c'était un danger nouveau qui menaçait. Le rocher pouvait se détacher et emporter avec lui les deux hommes accrochés à ses flancs. Rabusson ne s'arrêta pas. Décidé à sauver l'officier ou à partager son sort, il fit un dernier effort et, accomplissant des miracles de gymnastique, Il parvint au sommet du rocher. Là, il tomba épuisé à plat ventre. La voix de Roger fit entendre un dernier appel. « Au secours !» Prompt à se remettre de l'anéantissement qui avait paralysé ses forces, Rabusson tendit les deux bras. Il saisit le chevalier par les poignets et le maintint ainsi accroché à lui-même. Il était temps. Roger avait déjà desserré les doigts. « Courage, mon officier !» prononça Rabusson qui retrouvait seulement la voix après l'effort puissant et désespéré qu'il venait de faire. Le chevalier poussa un long soupir. Le sang se remit à circuler dans ses veines. Il retrouvait sa présence d'esprit. Mais en même temps, il comprenait que s'il venait d'échapper miraculeusement à la mort, il n'était pas encore cependant tout à fait sauvé. Rabusson était bien arrivé à temps. Il le maintenait en équilibre. Mais comment parviendrait-il lui-même à se hisser sur le sommet du rocher? Déjà, il s'était aperçu que le trappeur avait inutilement essayé de le tirer jusqu'à lui. Les forces de Rabusson pouvaient lui manquer tout d'un coup. Et alors, c'était la catastrophe, la mort pour tous deux. Soudain, une clameur partit de l'endroit où se trouvait le détachement. Gaspard et ses compagnons venaient d'apercevoir une dizaine de Sioux débouchant sur le versant de la montagne, faisant face au rocher auquel se cramponnaient Rabusson et le chevalier de Vaudrey. L'exclamation poussée par Gaspard et ses compagnons avait fait tressaillir Rabusson. Le sergent fit un effort pour lever la tête afin de regarder dans la direction d'où provenaient les cris. Mais au même instant, une volée de flèches siffla autour du rocher. Une d'elles avait traversé l'habit du chevalier. « Les Sioux !» s'écria Rabusson en serrant plus vigoureusement encore les poignets de Roger. Et tirant à lui, « Courage, mon officier » ajouta-t-il. Une seconde volée de flèches interrompit la phase commencée. Cette fois, le sergent avait reçu une blessure, et le sang qu'il perdait ruissela sur les mains du chevalier. « Courage !» répéta Rabusson. Dans un vigoureux effort, il parvint à hisser Roger, de façon à ce que celui-ci pût s'appuyer les coudes sur le roc. Tout à coup, une détonation se fit entendre. « Touché !» s'exclama Gaspard, qui venait de voir l'Indien ajusté par lui rouler dans le précipice. À partir de ce moment, les coups de feu se succédèrent, espacés seulement par le temps que mettait chaque homme à passer son fusil tout chargé aux Parisiens. Gaspard ne manquait plus un coup. Chaque balle atteignait un Sioux qui dégringolait de roc en roc jusqu'au fond de l'abîme. Rabusson en compta 10. Au dernier coup, un mouvement avait dû se produire, pensa-t-il, parmi les Sioux, car il entendit Gaspard et ses compagnons pousser des cris de joie. Aussi, se hasardant à se redresser à moitié, put-il se rendre compte du résultat de la fusillade. Une dizaine de Sioux ayant été tués successivement, ce qui restait de la bande s'était enfui avec la plus grande précipitation. « C'est le moment !» prononça Rabusson d'une voix forte. « Il faut déguerpir d'ici, monsieur le chevalier, car je connais la manière de faire de ces moricots. Ils vont revenir par centaines. Et tout à l'heure, nous allons avoir toute la tribu sur les bras. Courage, mon officier !» Le chevalier, cédant des coudes, parvint à se maintenir sur le rocher. Mais le danger n'avait pas disparu pour cela. Il avait bien évité de rouler dans l'abîme, mais il fallait maintenant quitter ce rocher isolé. Et pour y arriver, il n'y avait qu'un moyen. C'était de s'accrocher aux branches d'un arbre et de s'élancer sur un bout du roc, attenant à une partie du sol, laquelle n'aurait pas été bouleversée par l'explosion de la mine. Mais une fois là, on se trouverait de nouveau exposé aux flèches des Sioux, si ceux-ci revenaient avant que le périlleux trajet eût pu être accompli. En outre, le chevalier, peu habitué à ce genre de gymnastique, ne parvenait pas à saisir la branche. Force fut à Rabusson de prendre une détermination énergique. « Je vais vous charger sur mes épaules, mon officier, » dit-il en s'arc-boutant pour recevoir le fardeau humain. Et comme Roger hésitait, « Pressez-vous, mon officier, » continua Rabusson. « Une fois à Califourchon, vous prendrez ma carabine. Allez charger, et cela pourra vous servir à descendre un moricot. » Roger fit ce qu'on lui conseillait, et Rabusson, trouvant une force surhumaine, se porta jusqu'au bout du rocher. « Attention, mon officier, » cria-t-il, « je vais attraper la branche. » « Tenez-vous ferme, car si nous manquons le coup, nous roulerons bien sûr jusqu'au fond. » Étendant les bras, il parvint à saisir la branche. Restait un véritable tour de force à accomplir, et cela, à condition que la branche ne se rompît pas sous le poids des deux corps. Gaspard et ses compagnons, témoins de cet acte de courage et d'audace, haletaient. Pendant la minute qui suivit, ils purent voir le groupe humain se balancer au bout de la branche, au-dessus du précipice béant. À deux reprises, Rabusson avait essayé de s'accrocher par les jambes à une seconde branche. celle-ci soudée au tronc, mais sans y parvenir. Ses forces s'épuisaient, ses bras raidis faisaient tendre la branche. De petits craquements se produisaient, annonçant que le bois commençait à céder. C'était la perspective d'une mort horrible à laquelle on ne pourrait échapper que par miracle. Rabusson se sentit perdu et le sang lui monta au cerveau. Un nuage passa sur ses yeux. De sa gorge serrée, un cri de détresse s'échappa. Puis tous ses muscles se contractèrent, donnant un ressort inouï à ce corps balancé dans l'espace. Dans un effort instinctif, le sergent atteignit la branche d'arbre et s'y cramponna des deux pieds. Le chevalier reprit courage. Tenant la carabine d'une main, de l'autre, il céda à se maintenir sur la branche, à l'effet de gagner plus tard le tronc. Soudain, du fond du précipice, un cri arriva jusqu'à lui. C'était des Sioux qui avaient pris par le défilé afin de surprendre les soldats français, tout occupés du sauvetage qu'accomplissait Rabusson. En apercevant les deux hommes qui s'épuisaient en efforts pour se maintenir en équilibre, un des Indiens s'était mis à grimper à l'arbre. Il avançait avec l'agilité d'un singe et tenait son tomahawk entre les dents. D'en bas, les autres Sioux l'encourageaient par leurs cris. Après avoir providentiellement échappé au plus grand danger, le sergent et Roger étaient maintenant menacés de tomber au pouvoir des Sioux. « Envoyez une balle à ce gredin-là !» dit Rabusson, s'adressant au chevalier. « Mais visez bien, sinon... » Il n'acheva pas sa phrase. Le coup de feu partit et l'Indien, lâchant prise, dégringola le long de l'arbre. La détonation avait eu pour effet immédiat d'attirer l'attention de Gaspard du côté du défilé. Aussitôt, il se prépara à recevoir l'attaque des Sioux. Après avoir fait prendre position à ses hommes, il leur dit « Mes amis, il faut tirer vite et juste. Chaque coup doit porter. Que ceux qui ne sont pas sûrs de leur coup d'œil s'occupent de charger les armes. » Quelques minutes plus tard, la fusillade se fit entendre à la grande joie de Rabusson qui, maintenant qu'il avait pris pied sur l'arbre, jugeait les coups en s'écriant à chaque nouvelle détonation. « Bien tiré, camarade ! Le moricaud y est !» La diversion allait lui permettre de se remettre au travail de gymnastique afin de gagner le rocher le plus voisin. « En route, » dit-il au chevalier. « Il faut y aller de son saut périlleux, mon officier, puisque tous ces braves amis sont bien trop occupés pour venir à notre secours. » Aucune description ne saurait donner une idée des efforts auxquels durent se livrer Roger et le sergent avant de parvenir à sortir de la terrible situation où ils se trouvaient. Et pendant qu'ils luttaient ainsi, risquant de succomber à chaque instant, le détachement de Français faisait de son côté des prodiges contre l'ennemi acharné qui s'attaquait maintenant à lui. Gaspard conduisait l'opération avec tout le sang-froid d'un vieux capitaine, et le succès de sa tactique se prononçait quand tout à coup une nouvelle troupe de Sioux déboucha par l'autre extrémité du défilé. Les Français étaient par ce fait pris entre deux attaques simultanées. Il leur fallait maintenant faire tête partout à la fois. Gaspard dut diviser sa troupe en deux pelotons. Le feu, ainsi diminué, ne faisait plus d'assez larges brèches dans les rangs pressés des ennemis. Les Sioux avançaient de plus en plus, et l'on pouvait prévoir le moment où ils escaladeraient des deux côtés à la fois le versant de la montagne. C'est ce dont Rabusson put se rendre compte du haut du roc où ils se tenaient perchés, auprès du chevalier, épuisés tous deux par l'effort qu'ils avaient dû faire. « Mille tonnerres, mon officier » s'écria-t-il. « Ces moricots-là ont le dessus. Les voilà qui vont déborder vos hommes. » En même temps qu'il parlait, le trappeur avait saisi sa carabine que Roger venait de charger. « Nous allons faire une diversion, mon officier, » dit-il, « et je tirerai tant qu'il y aura de la poudre dans ma corne et des balles dans mon havresac. Quel malheur que vous n'ayez pas également un fusil, » ajouta-t-il avec un jet de désespoir. « À nous deux, nous mettrions bien certainement tous ces mâles blanchis en fuite. Mais c'est égal, vous allez me préparer les charges de poudre, ça sera toujours du temps de gagner. » La diversion produisit l'effet attendu. Rabusson ne prenait plus que le temps de charger et d'épauler son arme. Ce n'était plus maintenant qu'un incessant concert de coups de feu où la carabine du sergent faisait sa partie avec rage. C'était un incomparable viseur que l'ancien sergent. Le Sioux qui l'ajustait tournoyait sur lui-même et tombait la face contre terre. Rabusson s'était étudié à abattre principalement les Sioux qui, tenant la tête, menaçaient d'envahir les premiers la montagne. Le chevalier passait les munitions aussitôt le coup parti. Tout à coup, il ne se trouva plus de poudre dans la corne. Rabusson poussa un cri de rage et laissa retomber la crosse de l'arme à ses pieds avec un geste de découragement. Et comme pour augmenter ses transes, à ce moment, il put voir que des deux côtés, les Sioux gagnaient du terrain. Gaspard et ses hommes commençaient à battre en retraite vers les sommets rocheux. C'était la déroute imminente et la mort pour tous ces braves, succombant sous le nombre. En effet, de nouvelles bandes d'Indiens, attirées par la fusillade, apparaissaient à peu de distance. Le moment approchait où la jonction de toutes ces forces se ferait pour anéantir les Français, pourchassés à outrance et moins agiles que leurs redoutables ennemis. Rabusson, les bras croisés, suivait silencieusement les péripéties de ce combat inégal. Et dans son impuissance à porter secours à ses compatriotes, le vieux trappeur passait par toutes les phases du désespoir, et de grosses larmes coulaient tout le long de ses joues hâlées. « Il faut mourir, mon officier, » murmura-t-il en se tournant vers Roger, qui lui aussi subissait les plus violentes angoisses. Mais comme si ces mots eussent subitement éveillé en lui le souvenir d'Henriette, le chevalier de Vaudrey passa vivement la main sur son front. Et relevant la tête, « Non !» s'écria-t-il, « nous ne demeurerons pas inactifs ici. Pendant que nos compagnons se battent en désespérés et résistent avec un courage héroïque aux ennemis qui menacent de les anéantir. » Puis, passant des paroles à l'action, il s'élança sur la crête du rocher. « Qu'allez-vous faire ? » demanda Rabusson en se précipitant à la suite de l'officier. « Regardez !» répondit fièrement Roger. Et avant que le sergent eût eu le temps de le retenir, le chevalier de Vaudrey avait pris son élan. D'un bond formidable, il franchit la distance qui le séparait d'un autre rocher. Il s'accrocha des deux mains et pendant une minute mortellement longue, il chercha à reprendre l'équilibre. Rabusson le regardait avec admiration. Quand il le vit chanceler et prêt de lâcher prise, à son tour il s'élança. Bientôt les deux intrépides se trouvèrent côte à côte, escaladant les rochers, s'encourageant l'un l'autre du regard et de la voix. Mais après tant d'efforts héroïques, ils s'aperçurent qu'en suivant la chaîne de rochers, ils s'étaient éloignés de leurs compagnons. Le chemin qu'ils avaient parcouru les menait directement à l'un des sommets dominant la position occupée par les Français. Maintenant, ils se trouvaient séparés de ceux-ci par un gros ennemi. Armés, ils eussent pu faire une diversion utile, mais dans l'état d'impuissance où ils se trouvaient par le manque de munitions, ils en étaient réduits à assister à la défaite et à l'extermination de leurs camarades. Et la catastrophe qui leur paraissait désormais imminente allait se produire, pensaient-ils, à bref délai. Déjà, plusieurs Français, atteints par les flèches, gisaient blessés sur le sol. D'autres, après avoir épuisé leurs munitions, demeuraient immobiles, le fusil au pied, attendant stoïquement la mort. Quelques-uns, perdant la tête, s'élançaient au-devant de l'ennemi, cherchant le corps à corps afin de vendre chèrement leur vie. Et au milieu de tous ces hommes surexcités, rendus ivres par l'odeur de la poudre, Gaspard continuait à tirer, abattant à chaque coup son homme, défiant les traits qui sifflaient tout autour de lui, comme si tous ses ennemis l'eussent pris pour point de mire. Il était maintenant comme transfiguré. Le jovial faubourien, dont la verve s'était si souvent donnée carrière pendant les longues marches à travers forêts et savanes. Campé fièrement sur la hanche, on eût dit à le voir impassible, un chasseur à l'affût, prenant son temps pour viser le gibier. À son exemple, tout ce qu'il restait d'hommes valides parmi les Français se montra décidé à résister jusqu'à la dernière cartouche, puis à se défendre corps à corps contre leurs ennemis lorsque ceux-ci seraient arrivés à portée de leur sabre. Vain espoir. Il sembla qu'à un commandement de leur chef, les Sioux se fussent arrêtés à distance pour abattre à coups de flèche leurs indomptables adversaires. C'était le dénouement qui approchait dans toute son horreur. À ce moment, Gaspard retrouva son humeur gouailleuse des bons jours. Connaissant les habitudes des guerriers indiens, il se tourna vers ses compagnons en criant « Gare les cheveux, ceux qui en ont !» C'est que les Sioux brandissaient leurs tomahawks en poussant leurs cris habituels lorsqu'ils se disposent à scalper l'ennemi vaincu. Et déjà, jugeant qu'ils pouvaient s'acharner sans crainte sur des adversaires dont le nombre diminuait de minute en minute, les plus hardis parmi les Sioux s'avançaient les uns en rampant, d'autres en bondissant comme des fauves. Des cris assourdissants, cris de triomphe, s'élevaient de toutes parts. Tout à coup, à ces exclamations répondirent d'autres cris partant du sommet de la montagne. C'était Rabusson et le chevalier qui les poussaient pour exciter les Français à la résistance désespérée. Les deux hommes faisaient force gestes, et Gaspard les vit s'agiter comme des fous en donnant des signes non équivoques de satisfaction. Et comme si une inspiration lui fût venue subitement, « Courage, mes amis » s'écria-t-il, s'adressant à ses compagnons. « On vient à notre secours. Nous allons donc pouvoir sauver nos tignasses. » Au même instant, apparaissaient sur la crête rocailleuse des troupes d'hommes armés. Ces nouveaux venus étaient vêtus d'une blouse blanche serrée à la taille par une ceinture de cuir. Ils portaient le sabre d'un côté et la giberne de l'autre. Les premiers qui parurent poussèrent un formidable hurra à la vue des Français qui se défendaient avec acharnement, une poignée d'hommes contre des hordes d'Indiens. « Hurra !» répétèrent ceux qui, arrivant successivement, commençaient à entrer en ligne sur les sommets. Et du haut du rocher où ils se trouvaient, le chevalier de Vaudreuil, Rabusson, saluait des cris de « Vive la France ! Vive les boys de la montagne verte !» Ces hardis montagnards qui venaient à leur secours au moment même où fatalement ils allaient succomber. C'étaient en effet les garçons de la montagne verte, lesquels, prévenus par le grand aigle, s'étaient portés au-devant de la petite troupe commandée par le chevalier de Vaudreuil. Leur arrivée changea immédiatement la phase du combat sanglant qui se livrait sur le versant de la montagne. Les boys chargèrent les Sioux au pas de course, ne s'arrêtant que pour exécuter de foudroyants feux de peloton. Surpris en plein triomphe, les Indiens commencèrent par faire bonne contenance sous la pluie de projectiles dont on les inondait. Mais accablés par les feux plongeants qui les décimaient, ils lâchèrent pied. Le carnage commença terrible. Les morts et les blessés jonchaient le sol, écrasés sous les pieds des montagnards, acharnés à leur poursuite.